France Inter.
Ce dimanche, dans Interception, il y a de grosses fortunes françaises et de gros investissements français, mais pas du tout au même endroit. Et surtout, ça raconte pas la même histoire. Nous allons vous emmener dans le monde des ultra-riches, celui dont on parle tout le temps en ce moment. Payer la fameuse taxe Zucman ou pas, contribuer mieux, mais comment? Et puis, et c'est par là qu'on commence, nous allons ce matin, là où on trouve encore 300 filiales ou succursales de grands groupes français, plus de 700 sociétés de bâtiments, de télécommunications, de grandes distributions dirigées par des Français. Nous sommes en Côte d'Ivoire, autrefois bastion de la puissance coloniale. Je ne vous apprends rien. La place économique de la France, comme partout ailleurs en Afrique, elle est grignotée depuis un moment. Sa place dans les cœurs et les esprits, l'est plus encore.
Interception. Fabienne Synthèse sur France Inter.
Qu'est-ce qui reste de la France aujourd'hui ?
On parle français, c'est suffisant. Qu'est-ce qu'il faut rester encore ? Il n'y a rien qui reste. Il est temps que aussi l'Afrique, les jeunes Africains volent de leurs propres ailes. La France a joué son rôle. Laissons les jeunes Africains prendre le relais.
Lui, c'est Suspect 95, un rappeur hyper populaire. La France, c'est le partenaire néocolonial. Elle a tellement fini par le comprendre qu'elle n'a pas dit un mot sur l'élection présidentielle de samedi prochain, le 25, alors qu'Alassane Ouattara se présente pour un quatrième mandat quand la Constitution lui en autorise seulement deux. Pour préserver ses intérêts, désormais Paris fait profil bas, sans rien ignorer de ses concurrents, Libanais, Marocains et surtout Chinois ou Russes. Les jeunes qui font des études désormais ne regardent plus vers Paris. On a débaptisé beaucoup de rues à Abidjan et notamment cet axe très roulant qui relie le centre-ville à l'aéroport et qui, il n'y a pas si longtemps, s'appelait encore l'axe VGE, comme Valéry Giscard d'Estaing. C'est là que commence le reportage d'Antoine Gignot.
C'est l'une des principales artères d'Abidjan, cette route à deux fois trois voies avec des bus, des camions, un embouteillage gigantesque de voitures et puis sur les bords de la route, des centres commerciaux, on trouve à la fois des marques occidentales et des produits chinois. Ce boulevard VGE, rebaptisé désormais boulevard Oufouette-Boigny. On va se rapprocher des passants et des étudiants qui sont le long de la route. Bonjour.
Bonjour monsieur.
On est venu là parce qu'ils ont rebaptisé le boulevard VGE.
C'est ce qui est normal. Giscard d'Estaing. Bon, c'est au nom de la coopération, de l'amitié qui nous lie. Mais je crois qu'il était temps qu'on mette le nom au Fouet-Boigny. Voilà. Donc on n'a rien contre vous, mais seulement qu'on veut que ce soit rebaptisé à notre nom, nous-mêmes. Parce que là, on a vraiment eu assez. Hein. On a subi beaucoup de choses. Hein. Donc il est temps que nous-mêmes, aujourd'hui, nous prenions nos choses en main. Bon.
Les relations aujourd'hui, on a beaucoup dit que Paris soutenait Ouattara dans ses précédents mandats. Aujourd'hui, c'est moins clair.
Mais c'est vrai que vous soutenez. Vous le soutenez.
Le président.
Oui. À chaque fois, il parle là-bas, il va prendre conseil auprès de qui? Pourquoi il prend conseil toujours là-bas à l'Elysée? Ça a un impact. Aujourd'hui, sans vous mentir, hein, l'Afrique vomit la France. Excusez-moi si les mots sont durs, mais il faut que je vous le dise. L'Afrique vomit la France. Les Africains sont fatigués. Trop, c'est trop. Voilà ce que j'avais à dire.
On peut garder quoi comme lien?
Pour le lien, moi je crois que la France regarde dans sa marmite et qu'elle nous laisse tranquille. On n'a pas besoin d'eux pour les choix de nos dirigeants. Franchement, que Paris nous laisse diriger. Laissez-nous tranquille. Que Dieu nous garde. Mais...
Sur les 30 km du parcours officiel, ils étaient plusieurs centaines de milliers, habillés souvent comme presque toute la population d'un boubou à l'effigie du président français et de Madame Giscard d'Estaing.
Plusieurs décennies de vie commune ont fait prendre à la France la pleine connaissance du peuple ivoirien. Homme de la côte, surveillant le grand large, homme des savanes, des hautes herbes et du riz nourricier.
Vous êtes nouveau bachelier, vous recherchez une école qui forme des leaders d'entreprise. Choisissez l'Institut de formation
CEPFA. VGE, pour quelqu'un qui a 20-25 ans aujourd'hui, ça veut toujours dire quelque chose ?
VGE, d'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire, sans mentir.
C'était Valéry Giscard d'Estaing, président français, fin des années 70.
Oh, je n'étais pas encore née.
Vous ne le connaissez pas ?
Pas du tout.
C'est bien qu'on ait un peu tourné la page de ces années-là pour vous ?
C'est pas comme si on a réellement tourné la page. On est toujours avec vous, mais sans porter votre nom.
Étudiez plus sereinement grâce à nos deux cités universitaires.
Moi, je suis Kona Moi-José Blessing à l'état civil. J'ai 20 ans, bientôt 21 ans. Je suis étudiante au Confucius en deuxième année, bientôt troisième année.
Étudiante en ?
Confucius, c'est le département de chinois et tout.
La Chine, c'est des opportunités en termes de travail ?
Avant de me lancer, j'ai étudié le terrain, genre, voilà, voir quels sont les débouchés du chinois, ce que ça peut me rapporter. Après, j'ai constaté que les Chinois sont pratiquement sur tous les terrains, que ce soit le BTP, le transport, la vente. Et j'ai remarqué aussi que lorsque tu comprends la langue, c'est plus facile pour eux de t'accepter. Et à partir de là, tout s'ouvre. Il y a tellement d'opportunités. Il faut juste savoir les saisir.
Et là, pour le coup, bah, quand on voit ces dernières années, la France, elle a pris un petit coup dans l'aile en termes d'image.
Exactement. Mais ça ne veut pas dire qu'on a repoussé les Français. Pas du tout. On est toujours accueillants. On veut toujours recevoir les Français. Mais ça va dépendre de comment ces derniers vont se comporter.
Les entreprises chinoises, on les voit partout ici à Abidjan, y compris dans le très chic quartier Mermoz, avec ce gigantesque garage. Le patron est chinois, il s'appelle Fefe.
Fefe, viens voir.
Souvent on commande pièces en Chine.
On commande quand on peut pas trouver ici, c'est ça ?
Normalement, on fait comme ça.
D'ailleurs, j'ai vu, il y a des entreprises en Chine maintenant qui viennent importer directement. Il y a par exemple Alibaba, on reçoit directement ici. Ils ont des circuits de distribution.
Normalement, si on commande pièces en Chine pour venir, c'est 5 jours.
Parce que c'est rapide.
Ouais.
Vous êtes installé depuis quand ?
Oh, le garage, c'est ici, ça fait 6 ans.
Et avant, vous étiez où ? En Chine ou vous êtes venu ?
Avant, je suis au Mali 2 ans.
En termes de business, c'est mieux ici ?
Oui, c'est mieux. Ici, c'est mieux. Parce que il y a beaucoup de clients.
Pardon, je sais pas. Pardon, attends, je vais attendre qu'il ait fini.
Le marché ici, c'est mieux qu'en Chine.
Et vous avez appris à parler français avant au Mali ou vous aviez appris avant ?
J'ai dû dire en français, non. Apprendre le français en ligne.
Donc vous avez appris le français sur Internet ?
Oui, c'est ça.
Bah, c'est pas mal, hein. Ça marche bien en tout cas.
Ici, il y a beaucoup de business, on va continuer.
Alors, si je joue à Nianzou, propriétaire de la Range Rover Evoque 2012.
C'est une Range Rover, hein.
Oui, c'est une Range Rover Evoque, année 2012. Moteur essence.
C'est quoi l'avantage des Chinois ?
Alors, ils sont beaucoup plus professionnels. Voilà, ils s'y connaissent vraiment. Ils ne mettent pas la pression pour les payer. Ils te permettent de payer sa façon échelonnée. Ils sont vraiment des génies au niveau de la réparation.
Bon, hey, j'en profite, le patron, il est chinois, mais les ouvriers, il y a plein d'Ivoiriens qui travaillent.
Ouais, plein.
Est-ce que ça vaut le coup ?
Ouais, ça va, on remercie le bon Dieu, on ne se plaint pas. Bon, en termes des salaires, c'est un peu...
Ça veut dire quoi ? C'est un peu limite sur le
voilà,
sur la
paye. C'est un peu limite, mais on espère que ça va aller.
Si tu travailles correctement, ce que tu mérites, on te donne.
Il te paye.
Ouais, il te donne comme ton salaire. Bon, samedi, dimanche, on travaille, mais c'est pas obligatoire, quoi.
Si tu veux le dimanche, tu viens, mais samedi, c'est obligatoire que tu sois là.
Ça fait 6 jours sur 7.
Voilà, c'est ça.
Alors dans la même rue, il y a aussi un restaurant chinois, une grande boutique Quaduo, boutique pour les cadeaux, avec des sacs à main siglés Fendi, Yves Saint Laurent. Impossible de savoir si c'est des vrais, mais c'est assez peu probable. On s'éloigne encore un peu. On va rejoindre l'entrepôt de Seco Power, une entreprise française. On a rendez-vous avec un expatrié qui a passé presque la totalité de sa vie en Côte d'Ivoire. Bonjour.
Bonjour messieurs.
Vous allez bien ?
Ça va et vous ?
Ça va.
Les gars sont tous en mission en brousse. Ils sont dans les dépannages et tout ça.
Oui. Là, on a les rayonnages avec les pièces.
Voilà, les rayonnages avec les pièces détachées, les moteurs Perkins.
Oh, c'est pas du petit moteur, ça fait 2 mètres de long sur 3 mètres, sur 2 mètres 50 de haut.
Ouais. Hein. Ça, c'est des moteurs qui sont pour les groupes électrogènes, pour des grosses installations. Ça, c'est le plus gros qu'on ait sur Abidjan. Alors, je suis Monsieur Compan. Seco Power, c'est une société qui représente la marque Perkins.
Donc les moteurs ?
Les moteurs, les pièces détachées, tout ça. C'est une société qui va sur le terrain, qui va réparer les groupes électrogènes, les gros moteurs de force et tout ça.
Être français aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est avoir quelle image ?
Moi, j'ai une bonne image. Moi, de toute façon, je suis ici depuis 1954. Donc j'ai grandi ici, j'adore la Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup d'amis ivoiriens. Je ne me vois pas repartir en France. Mais ce qui m'attriste, c'est qu'on ne peut plus travailler comme on le souhaiterait. Tout a changé, dans tous les sens du terme. Au vu de ce qui se passe, moi, je connais plein d'amis qui ont des sociétés qui sont des Français, qui sont en train de fermer les unes après les autres. Parce qu'économiquement, ça vaut plus le coup. Quand vous importez de la marchandise, en fin de compte, c'est la douane qui a le monopole de faire les tarifs. Et si vous amenez un produit qui vaut 5000 francs réellement et tout, ils vont vous le taxer à 7000 ou 8000. Donc ce qui fait qu'on arrive après à des prix qui ne sont plus compétitifs. Tous ces problèmes administratifs font que ça ne donne plus le courage de continuer. Les petites entreprises françaises qui faisaient de la peinture, qui faisaient des petits trucs, ils se sont fait manger par les gros groupes. Les mecs, ils tiennent pas parce qu'ils ont trop de charges, parce que les entreprises françaises, en fin de compte, ils déclarent tout. Donc ce qui fait que quand ils arrivent à la fin de l'exercice, eh ben, il ne reste plus grand-chose. Et puis quand on envoie des centaines de millions tout le temps pour boucher les trous, il arrive un moment, ben basta.
On entend dans les jeunes générations beaucoup, la France doit rester un partenaire, mais un partenaire parmi d'autres.
Ben, disons que la France n'est rien pour non plus. C'est-à-dire qu'ils n'aident plus la Côte d'Ivoire comme avant. Puis maintenant, faire des routes ou faire des ponts et tout, ils peuvent être concurrentiels par rapport... aux Chinois, ou voilà. Bon, bien qu'il y a quand même des sociétés comme Bouygues qui sont quand même installées, qui eux, bon, il n'y a pas de problème. Mais c'est le seul.
La construction, le secteur du BTP, c'est ce qui dope l'économie ivoirienne ces dernières années. 6,5% de croissance, avec des échangeurs, d'autoroutes, des pelleteuses, des immeubles un peu partout. La contrepartie, ce sont des opérations de déguerpissement qui ont fait plusieurs milliers de déplacés, des habitants, parfois réveillés par les bulldozers sans même avoir été avertis qu'on rasait leur quartier. En fait, la ville change à toute vitesse. Et ici, à Port-Bouët, l'armée française a rendu les clés de la base du 43e bataillon d'infanterie de marine au mois de février dernier. Tout est en train de se transformer. Les maisons avec des toits de tôle disparaissent. Et des routes
et des nouveaux immeubles sont en train de sortir de terre.
Bonjour.
Bonjour monsieur.
Je ne vous dérange pas ?
Hein ?
Je travaille pour la radio France Inter.
Est-ce que vous pouvez me dire, vous, vous présenter et me dire ce que vous faites dans la vie ?
Ouais, je suis Aqua Michel. Je suis vendeur comptoir chez ACFAO.
Qui est une société de quoi ?
Une société de vente de voitures, des pièces de rechange. Non, c'est une société française.
Est-ce que c'était important que la France rende les clés et, bah, et cesse sa présence militaire ?
Nous sommes un État souverain. C'est normal que la France rende les clés. Nous sommes un État souverain, donc on n'a pas besoin de la force française pour nous surveiller, bien pour nous protéger. Voilà.
Justement, en termes d'alliance, on voit bien que l'Afrique de l'Ouest a beaucoup changé. Alors avec la pression aussi de la Russie, d'autres acteurs économiques qui rentrent dans le jeu, il y a quelque chose à reconstruire pour vous ?
Mais quand vous dites la pression de la Russie, justement, mais ce n'est pas une pression. Voilà, c'est juste un soutien. Mmh. Un soutien militaire. Voilà, vous savez, au Mali, au Niger et même au Burkina, ces derniers pays-là sont attaqués par les terroristes. C'est un soutien, ce n'est pas une pression. Voilà, le Burkina est en train de se développer grâce à la Russie. Et c'est ce changement-là qu'on veut en Côte d'Ivoire actuellement.
D'ailleurs, l'ambassadeur de Russie, au lendemain du départ des Français, a proposé une coopération au gouvernement ivoirien. La Russie, c'est un partenaire possible pour vous ?
Oui, bon, si la Russie, ça serait une très bonne chose. On a besoin d'un soutien. Vous savez que la France a une mainmise sur la Côte d'Ivoire. Voilà, toutes nos ressources premières vont en France. Voilà, donc si on a un nouveau partenaire comme la Russie qui nous aide, donc ça va nous arranger, je pense bien.
On est quoi pour vous, à un tournant de reconstruction un peu à, vous voyez ça comment ? Parce que même en termes économiques, aujourd'hui, on a la Russie, elle est déjà présente, les Chinois sont très présents, les Marocains sont très présents. Il faut oublier un peu la page française, passer à autre chose ?
Non, pas oublier, mais redynamiser les choses, essayer de voir un peu les contrats. Voilà, voilà, il faut revoir un peu les contrats. Sinon, on ne peut pas se débarrasser de la France, on ne peut pas se débarrasser d'un ami, c'est trop.
Un partenaire ?
Un partenaire, voilà, mais justement, un partenaire. Donc je pense que la France doit s'écarter et laisser nous-mêmes gérer nos problèmes. Voilà, plus d'ingérence. Et même pas seulement en Côte d'Ivoire, je pense que dans toute l'Afrique.
La Russie, elle est déjà présente économiquement en Côte d'Ivoire, ne serait-ce que pour se déplacer avec l'application Yango qui permet de commander des VTC. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour.
Pardon, j'ai ouvert le mauvais côté.
Voilà, le mauvais côté, c'est
pardon. Pardon, oui, je veux pas arracher la portière. Hein.
Ouais, souvent les gens là, ils ne vont jamais arrêter. Hein.
On va prendre cette petite rue goudronnée, dernière montée, et on arrive sur les hauteurs qui dominent les quartiers nord de la ville. On aperçoit les gratte-ciels au loin, près de la lagune. Et on descend ici. Merci, au revoir. Et j'ai rendez-vous avec l'un des rappeurs les plus connus du pays dans un studio d'enregistrement. Il s'appelle Suspect 95. En France, vous l'avez peut-être aperçu dans un duo avec Youssoupha. Ici, c'est une sorte de superstar avec des clips qui font plusieurs millions de vues. Si ça marche, c'est parce qu'il est l'un des premiers à avoir pris ses distances avec la langue française en ajoutant des paroles en ouchi, l'argot ivoirien.
C'est l'intro de mon nouveau projet que je suis en train de développer.
Je sors de la salle du temps et de l'esprit. J'ai pas lu la notice de ce qu'on m'a prescrit. Là j'ai très faim, j'ai pas le temps que tu m'expliques.
Viens voir le maillot du PGT. T'as plein d'un bon gros ici. T'as plein d'un bon gros ici.
Ah, c'est la première partie. Hein. Après il y a un switch, mais j'ai pas encore fini, je suis en train de modifier ça encore.
qu'on décrive un peu parce que c'est de la radio. Là, on a donc l'ordinateur, le MacBook, les deux enceintes de studio.
Ouais, c'est ça, les deux enceintes de studio. Je travaille sur Logic Pro.
Vous avez 10 ans, un peu plus,
ouais,
de rap à votre actif.
10 ans de carrière officielle dans le showbiz. Sinon, je rappe depuis, je suis en quatrième, un truc comme ça. Ouais.
Comment est-ce que ça a évolué ici et qu'est-ce qui est en train de se jouer? On a beaucoup d'artistes qui rappent en français, mais qui mélangent de plus en plus des paroles en lingala, des monouchi d'argot, de l'anglais. Ça veut dire qu'une bonne prod, c'est une prod qui fait cette synthèse-là, ce mix-là?
En fait, si je dois faire un peu la genèse, ça fait longtemps que le rap, il existe à Abidjan, le rap, en Côte d'Ivoire. Mais ce qu'on appelle aujourd'hui le rap ivoire, avec cette étiquette-là, ce label, parce qu'on ne dit pas le rap ivoirien, on dit le rap ivoire, c'est carrément, c'est labellisé. C'est ce mélange de nouchi, qui est notre argot, l'argot ivoirien, avec le français. Et le nouchi même, il prend encore plus de, il prend plus de place même. On se sert juste du français pour faire les liaisons et tout. Sinon, c'est vraiment le cœur de nos sons, c'est beaucoup de nouchi, beaucoup de notre accent. Et c'est ça qui donne le rap ivoire, avec nos instruments aussi à nous. C'est vraiment quand toute la vague du rap ivoirien a décidé d'accentuer sur le nouchi, sur l'argot, sur cette manière de rapper à nous, que le rap ivoire a pris son envol. Donc aujourd'hui, je peux le dire, oui, c'est la recette. C'est la recette qui te fait entrer, voilà, de manière officielle dans ce qu'on appelle le rap ivoire. Quand tu rappes avec ce mélange, ton accent, ton nouchi, voilà, ton flow et nos réalités d'ici, quoi.
C'est aussi assumer plus l'identité ivoirienne?
Totalement. C'est même le but. C'est limite, quand c'est pas assumé, c'est pas, ça fonctionne pas en fait. C'est le fait d'assumer qui fait que ça fonctionne.
Est-ce que rapper juste à l'ancienne et comme des Français de Paris, ça passe plus?
C'est pas ringard, mais c'est sans identité. Ça paraît vide. Chez vous, même en France, là-bas, notre nouchi, il est partout. Quand tu entends Goumé, quand tu entends Go, quand tu entends Enjailler, quand tu entends... C'est nous, c'est le nouchi, c'est la Côte d'Ivoire. Et c'est au-delà même de représenter la Côte d'Ivoire, on s'incruste dans la culture française. Ouais. On ne peut plus arrêter la vague, c'est trop tard.
Est-ce que pour vous, ça va dans un mouvement plus grand et plus culturel, où la France perd un peu du terrain, est accusée aussi d'avoir beaucoup soutenu politiquement les dirigeants au pouvoir, donc a souffert de cette image-là? Est-ce que face à ça, finalement, c'est pas une appropriation culturelle, tout simplement, identitaire?
Je ne vois pas les choses en tant que la France qui perd du terrain, je vois les choses plutôt en tant que la Côte d'Ivoire et son identité qui s'affirme. C'est le continent africain, je pense qu'au niveau de l'essor, c'est vraiment le continent où il faut être, où il faut regarder. C'est l'heure de l'ouverture, hein. C'est l'heure de l'ouverture. On s'ouvre avec la mondialisation, les réseaux sociaux, toutes les opportunités sont là et on s'ouvre.
Qu'est-ce qui reste de la France aujourd'hui?
On parle français, c'est suffisant. Qu'est-ce qu'il faut rester encore? Il n'y a rien qui reste. On parle français, on a hérité aussi d'un système éducatif francophone. La France donne ce qu'elle peut donner et a beaucoup donné aussi par le passé. Et donc, bon, je pense qu'il n'y a pas de mal à ce que, à gauche, à droite, les jeunes aillent voir un peu vers d'autres horizons, quoi. Il est peut-être temps pour les pays africains de prendre je n'ai pas dit leur véritable indépendance, mais de prendre leurs responsabilités, quoi, tu vois. Il est temps que aussi l'Afrique, les jeunes Africains volent de leurs propres ailes. La France a joué son rôle. Laissons les jeunes Africains prendre le relais. Voilà.
Pour mesurer vraiment le changement culturel qui est en train de se produire à travers le rap ivoire, mais pas seulement, il suffit d'aller au nord de la ville en fin de semaine vers des nouveaux clubs qui viennent d'ouvrir comme le Grain du Z. Gros système son, un bar à l'entrée, des canapés et une scène avec un DJ et des platines.
On se met.
Juste un peu plus loin des baffles, quoi. Voilà. Ah non, il n'y a pas d'image. Hein. Non, non, c'est vraiment que la radio. Que la radio. Mais c'est bien la radio.
Moi, c'est Grace. Je suis étudiante en droit. Elle aussi, elle est étudiante en droit. Bon, elle, elle a fini.
Moi, j'ai fini. Je suis en recherche de boulot, bien évidemment. Mmh. Je me nomme Gracia Alice.
On assume maintenant notre identité en vrai. Ça nous rappelle que nous sommes Ivoiriens avant d'être des gens qui parlent le français.
La première identité, c'est pas la francophonie, c'est...
Non, c'est l'Ivoire, la Côte d'Ivoire. Parce qu'on peut bien s'exprimer en français. On s'exprime bien en français. Quand on va à l'école, on s'exprime bien. Mais avec la musique, on remarque qu'on est plus Ivoirien en fait. On remarque vraiment notre accent, notre localité, nos origines. Parce que ça nous rappelle que ce n'est pas du rap français, c'est du rap ivoire.
Plus de piment dans la sauce. C'est ça qui différencie plus les Ivoiriens des autres continents. Parce que ça permet à ce qu'on puisse les identifier grâce à ce qu'ils font, à leur rap. Que certains artistes des pays étrangers viennent en Côte d'Ivoire pour faire des featuring avec des Ivoiriens, cela montre que notre culture africaine n'est pas morte.
Vous le disiez, vous êtes dans la francophonie, vous avez été à l'école en français, vous avez été nourri d'une partie de cette culture-là aussi.
Exactement.
Et pourtant, il y a aussi une distance. Alors, c'est quoi votre rapport à vous face à la France ?
En tout cas, je ne vais pas dénigrer un peu, mais je dis que déjà, avant d'être colonisé, on avait déjà nos origines. Et ces origines ne se perdent pas. Malgré la musique, la culture, les masques et tout, nos origines ne vont jamais se perdre. Même si on étudie la France, on étudie en français, on ne perd pas nos origines parce que chaque ethnie de la Côte d'Ivoire parle sa langue maternelle. Donc on ne perd pas nos origines. Même dans la musique, on chante dans nos langues maternelles. Donc je ne vois pas en quoi la France nous a permis d'avoir juste un langage. Après ça, nous avons aussi nos origines, nous avons notre langage que nous avons réadapté. Le langage français à notre manière. La Côte d'Ivoire aussi est largement vaste en culture, en langue, en loisirs, en tout en fait.
Raison de plus, la Côte d'Ivoire c'est un pays d'hospitalité. Il accueille beaucoup de pays. Tout le monde est à l'aise quand ils viennent ici. Ils se sentent bien comme chez eux. Ils sont bien accueillis, bien nourris. Ils profitent. Par exemple vous, vous profitez au moins.
C'est
on
vrai,
est d'accord.
C'est vrai.
Ah, voilà, donc ça nous fait plaisir que vous ayez pu profiter de votre séjour en Côte d'Ivoire. En tout cas, tout en espérant que vous reviendrez un jour.
Absolument. Merci beaucoup à tous les deux.
Côte d'Ivoire, France, au revoir. Un reportage signé Antoine Gignot.
France Inter, Interception.
Quittons la Côte d'Ivoire pour entrer dans une tour d'Ivoire, celle des ultra-riches, ceux qui ont les oreilles qui sifflent depuis un moment en France. Les ultra-riches sont devenus notre sujet de conversation favori dès qu'on parle de budget. Désormais, tout le monde a entendu parler de la taxe Zuckman, qui veut prélever 2% sur les plus hauts patrimoines, taxe rejetée d'ailleurs aux dernières nouvelles par le nouveau gouvernement. La petite musique, c'est contribuer, d'accord, à condition que tout le monde donne sa part. Et bien sûr, les riches, au pire, ils trichent. Au mieux, ils rechignent. Nous allons vous en présenter deux qui ont bien voulu parler de leur fortune et de leur patrimoine. Et croyez-moi, ils sont rares ceux qui acceptent de se raconter. L'un pense qu'il contribue suffisamment, l'autre pas assez. Leur patrimoine est supérieur à 100 millions d'euros, c'est leur point commun. Ils en ont un autre. Aucun d'eux n'a hérité. Ce sont des entrepreneurs qui ont réussi en France. Cécile Bideau vous emmène d'abord à Salon de Provence, dans une usine de fabrication d'implants dentaires.
Ouverture des portes. Deuxième étage.
Qu'est-ce qu'on regarde ?
Bonjour, monsieur Véran.
Comment ça va ?
Enchanté.
Vous allez bien ?
Très bien.
Vous êtes dans mon bureau.
Avec une belle terrasse.
Ouais. Belle terrasse, belle vue. On ira sur la terrasse pour que je vous montre le Luberon. Et les Alpilles. Est-ce que vous voulez un petit café ?
C'est gentil.
Ah oui, il y a plein de choses dans ce bureau. Hein. Donc il y a mes filles, il y a ma femme, il y a Teddy Riner,
Teddy Riner, le judoka.
Ouais, qui est mon ami.
Macron.
Une belle rencontre. Voilà, des dessins de Lamborghini, mais voilà, c'est mes voitures, hein, donc mon Urus et ma Revuelto. Voilà, donc ils sont.
Celles-là, vous les avez en vrai?
Ouais. Je m'appelle Philippe Véran, j'ai bientôt 60 ans. Je suis le président du groupe Biotech Dental, qui a été créé en 1987, qui fait partie de ma vie comme mes enfants.
Et vous avez d'autres entreprises aussi, je crois?
Oui, alors après, dans mon groupe, j'ai beaucoup d'autres sociétés différentes dans différents domaines. Voilà, on a des restaurants, un hôtel, des sociétés dans le médical aussi, dans le sport, dans l'industrie, dans l'intelligence artificielle, dans la presse, dans les médias.
Vous en avez combien, des sociétés?
Je ne sais pas.
C'est vrai, vous ne savez pas?
Non. Mais on doit avoir une centaine de sociétés dans le groupe. Tout ça va bien, moins bien. Au rythme de la vie, de l'économie. Voilà, c'est ça aussi, l'histoire de l'entreprise. C'est pas de tout repos, l'entreprise.
Vous êtes parti de zéro?
Ouais, de zéro. Alors, on était deux, hein, mon associé et moi. Mon associé est décédé de façon subite il y a 2 ans. Tout ça, on l'a créé tous les deux. C'est-à-dire qu'on est parti nu et cru. Tous les jours, je bénis le ciel de la chance que j'ai d'avoir cette vie. Mais c'est pas pour ça que cette vie est facile non plus. On fait le tour?
On fait le tour de l'usine, là? Allons-y.
Je vous explique un peu comment ça fonctionne. Voilà, on va rentrer dans le cœur. Donc ce qu'on fabrique ici, c'est ça. C'est une gouttière en plastique que vous allez porter pendant une semaine et qui va vous permettre d'aligner vos dents. Et toutes les semaines ou tous les 15 jours, on change la gouttière. Et donc chaque fois, donc l'idée, c'est la première gouttière, elle ressemble aux dents que vous avez. Et la dernière, ce sera celle où vous avez toutes vos dents alignées. Nous, nos clients sont les dentistes et les orthodontistes. Donc là, vous avez les imprimantes 3D. Ces machines que vous voyez, c'est des machines qui ont été développées en interne.
Cette usine, elle a été ouverte il y a combien de temps là?
On l'a ouverte en septembre 2022 et inaugurée en juin 2023. Quand l'idée s'est posée, c'est vrai qu'on a regardé au Portugal, donc où on a aussi une filiale, où on avait des aides possibles, en Espagne aussi. Et encore une fois, c'est une grande fierté patriotique. Hein, donc clairement, je ne me voyais pas vraiment faire cette usine ailleurs qu'ici, hein, clairement. On livre dans 90 pays dans le monde.
Il y a combien de personnes qui travaillent ici?
Ici, à peu près 200 personnes. Voilà, en 3-8, c'est tout le temps ouvert.
Et est-ce qu'elle est déjà rentable, cette usine?
Oui, elle est rentable.
Ouais. L'investissement était conséquent pour
15 millions, oui.
15
ouais.
millions d'euros?
Ouais. Ouais, c'est beaucoup d'argent. Hein.
On peut peut-être remonter dans votre bureau pour discuter plus au calme. Est-ce que vous estimez avoir réussi aujourd'hui?
Non. Je vous dirais que c'est quoi la réussite, mais... La réussite sociale, non. Enfin, c'est pas ce qui me dicte. Donc, si la réussite professionnelle, c'est pour un entrepreneur, c'est Bernard Arnault ou Elon Musk. Enfin, j'en suis loin, quoi. Donc, non, moi, ma réussite, ce serait vraiment un jour d'être un peu plus serein. Je pense que ce qui manque au monde de l'entreprise, c'est ça, c'est la sérénité, et en particulier dans notre pays. Et ce qui se passe en ce moment, donc il n'y a rien qui fait que ça nous donne un peu plus de sérénité, et dont on a pourtant, franchement, grand besoin. Donc on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé.
Vous dites que vous n'êtes pas Bernard Arnault, pourtant vous êtes quand même assez bien placé. Si je reprends les classements des 500 fortunes de France du magazine Challenge, vous savez à quelle place vous êtes?
Non.
251, je crois. Vous êtes au milieu du tableau.
Ah, oui.
Donc dans ce classement, il est noté que votre fortune s'élève à 580 millions d'euros.
Oui.
Est-ce que c'est juste d'abord? Et puis qu'est-ce que ça représente pour vous?
Ben, ça représente un chiffre, mais ça ne représente rien parce que ce n'est pas un chiffre qui est sur mon compte en banque. Donc, loin s'en faut, vous pouvez appeler mon banquier et il vous le confirmera. Donc, c'est complètement artificiel.
Mais c'est-à-dire comment ça marche?
J'en sais rien comment ça marche. Ça marche, on évalue en gros la valeur des entreprises par rapport à des comparables sur les marchés, par rapport à des opérations qui ont été faites et sur lesquelles on peut pouvoir dire, eh ben, tiens, lui, voilà, l'ensemble des entreprises, ça vaut à peu près ça. Donc c'est facile d'empiler des chiffres comme ça et de dire, regardez un peu cette valeur, mais ce n'est pas des titres placés dans une banque et que vous pouvez convertir avec de l'argent comptant. Ce n'est pas ça du tout, la valeur d'une entreprise. Donc moi, je gagne ma vie correctement, très correctement. Je paye beaucoup d'impôts, c'est normal. Donc, si on devait payer ce que Zucman avait dit, donc je crois que c'est 2% de la valeur. Donc, imaginez 2% de 600 millions pour faire simple. Donc, ça fait 12 millions d'euros. Donc, à payer, comment on va payer 12 millions d'euros, nous ?
Vous ne les avez pas ?
Non, pas 12 millions d'euros, moi. Moi, j'ai un peu d'argent pour si demain il m'arrive quelque chose, mais j'ai pas 12 millions d'euros, moi, je ne suis pas liquide.
Ça veut dire quoi, pas être liquide ?
Mais ça veut dire que je ne fais qu'investir, qu'acheter, qu'emprunter, que pour mes entreprises. Voilà. Je suis en appartement à Aix, j'ai ma maison de vacances dans le Var, et le reste de ce que j'ai, c'est des usines, si vous en voulez, j'en ai, des bureaux, des terrains dans des zones, voilà, c'est ça, ma fortune. Et aujourd'hui, on va me taxer là-dessus ? Mais c'est pas possible. C'est pas comme si j'avais une villa à Saint-Tropez, je veux dire, c'est pas la même chose. Ou c'est pas comme si j'avais un yacht de 300 mètres. Pas de yacht, moi. Donc il faut m'expliquer comment on va faire. Donc on va vendre. On va vendre, ben, je vendrai un bout de l'entreprise pour payer mes taxes. Taxer l'outil de travail, c'est la pire des choses qui puissent arriver. La pire. Je suis l'exemplarité de le modèle français de ce qu'on veut que l'entrepreneur français soit. Mais là, c'est pas tu gagnes, tu payes. C'est on te dit que ça vaut et on te prend. Donc c'est pas la même chose. Mais c'est du vol, c'est de la spoliation, c'est pas de l'impôt, ça. Et puis, il suffit de s'organiser. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les jeunes entrepreneurs ? Holding au Luxembourg, holding en Belgique, holding en Italie, et tu crées ta boîte. Voilà. Donc, tu es actionnaire d'une holding qui détient les titres de ta boîte, et c'est fini.
Et ça permet l'évasion fiscale.
Complet. Et dès le départ. Mais moi, aujourd'hui, je le dis aux gamins. Je dis, mais les gars, aujourd'hui, avec la tournure que ça prend, là, tu fais ta holding en Italie, et tu crées ta boîte en France.
Et ça, vous le faites, vous ?
Pas du tout. Mais moi, française, ma holding.
Et pourquoi pas ?
Mais je peux pas le faire. Moi, il fallait que je le fasse dès le début. Mais moi, je l'ai pas fait. Je suis français, moi. Je suis pur français, moi. Pur con, quoi, en gros. Parce que c'est ça que ça veut dire, à la fin. Moi, j'étais tellement content de faire quelque chose dans mon pays pour créer de la valeur, créer de l'emploi, créer de la richesse, créer de la fierté, créer de l'envie, créer de... Voilà, il faut pas couper cet élan. C'est terrible. Il faut pas couper ça. Si la seule façon de plus payer, c'est de quitter la France, je quitterai la France, ouais. Il n'y aura plus d'impôts, il n'y aura plus rien. Et on dira, lui, c'est un salaud. Mais pourquoi c'est un salaud ? C'est moi le salaud ? Pourquoi ?
La raison pour laquelle les grandes fortunes ont des taux d'imposition si faibles aujourd'hui,
Gabriel Zucman, économiste,
c'est parce qu'elles peuvent structurer leur patrimoine de façon à ce que ce patrimoine ne génère pas beaucoup de revenus taxables, de revenus fiscaux.
En juin 2025, sur France Culture.
C'est les dividendes des entreprises qu'elles possèdent. Les grandes fortunes tirent l'essentiel de leur richesse, de la propriété de grandes entreprises. Ces grandes entreprises distribuent des milliards de dividendes. Ces milliards de dividendes, on pourrait penser, ils sont fiscalisés. Ils vont être taxés, il y a une flat tax de 30%. Que nenni ! Ils ne sont pas fiscalisés parce que ces milliards de dividendes atterrissent de façon quasi systématique dans des sociétés holding familiales et à ce titre échappent à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Donc si vous exprimez le taux minimum d'imposition en pourcent du revenu, ça ne fonctionne pas puisque tout le problème est précisément qu'ils ont peu de revenus fiscaux.
Je vais maintenant rencontrer un autre de ces ultra-riches. D'ailleurs, je crois que c'est un terme qu'il n'aime pas du tout. Jean-Baptiste Rudel est le fondateur de Criteo, entreprise spécialisée dans le ciblage publicitaire sur Internet. Sa start-up, elle est allée très haut jusqu'à être cotée au Nasdaq, l'une des bourses des États-Unis. Aujourd'hui, sa fortune dépasse aussi les 100 millions d'euros. Il fait partie des 1800 patrimoines éligibles à la taxe Zucman. Mais lui demande à la payer. J'ai rendez-vous dans les bureaux de sa fondation qui s'appelle Blue et qui est située à Paris. Bonjour, c'est Cécile Bideau de France Inter. J'ai rendez-vous avec Monsieur Rudel. Merci.
Ça va ?
Ça va très bien, merci.
Ok. Là, on se trouve dans la grande salle commune du bureau où, en fait, on partage le bureau entre Blue, qui est ma fondation, et Zénon, qui est un think tank que j'ai créé sur le changement climatique et la décarbonation de l'économie. On fait beaucoup d'actions sur la protection de la mer, des actions aussi sur l'émancipation des femmes, sur le développement durable. Voilà, donc plein de thématiques qui me sont chères. Ouais. On donne son temps, mais on donne aussi son argent, ses moyens et son expertise pour des projets à dimension philanthropique.
Merci.
Après, j'ai lu le dernier rapport là, sur l'IA que tu as fait sur, sur la consommation énergétique. C'est très bien, quoi. Il y a tous les grands sujets. C'est...
Il y a le rapport du Shift aussi qui est sorti 2 jours plus tard, je crois.
Bon, bah, génial. Bravo.
On s'installe là dans ce petit bureau sous les combles.
Ça vous va ?
Très bien.
Je m'appelle Jean-Baptiste Rudel. Voilà, je suis un entrepreneur dans la technologie depuis plus de 20 ans. Mon père était artiste peintre, ma mère était chercheure en sciences politiques. Donc quand je leur ai dit que j'allais monter mon entreprise, ils me regardaient avec des grands yeux et ils ne comprenaient pas de quoi je leur parlais, quoi. Pour eux, ce n'était pas un job, c'était un truc bizarre, quoi. Alors effectivement, j'ai eu beaucoup de ratés au début et puis à un moment, ça s'est amélioré, quoi. Et là, quand toutes les étoiles s'alignent, c'est absolument magique. On a une entreprise qui, entre 2008 et 2013, est passée de 0 à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en quelques années, en une croissance qui était l'équivalent de ce qu'a fait Google dans ses premières années. Et en 2013, il y a eu un peu l'apothéose symbolique, c'est qu'on a coté l'entreprise au Nasdaq, la bourse américaine. Et ça, symboliquement, c'était un grand moment, surtout que c'était la première fois depuis 20 ans qu'une start-up française se cotait au Nasdaq. Et voilà, c'est un changement de monde. C'était une entreprise qui avait atteint une très grande taille, on faisait 2 milliards de chiffre d'affaires, on était 3000 employés, donc ça devenait un gros paquebot à gérer. Et j'ai envie de retrouver des structures plus petites et plus agiles. Voilà pourquoi j'ai quitté Criteo pour de nouvelles aventures, quoi.
Récemment, vous avez co-signé une tribune avec 2 autres entrepreneurs au sujet de la taxe Zuckmann. Vous demandez à la payer puisque vous y êtes éligible de par votre patrimoine. Est-ce qu'on peut en lire peut-être le début ou un extrait qui vous semble important ?
La première phrase, c'est « Futur assujetti à une éventuelle taxe Zuckmann, nous souhaitons apporter notre point de vue à ce débat qui électrise l'espace public ». C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de réactions à cette tribune et on sent que c'est un sujet qui est très émotionnel. Particulièrement dans ces moments, on nous parle de dire qu'il va falloir faire des efforts budgétaires, que tout le monde va devoir se serrer la ceinture, que tous les Français vont devoir faire des efforts. C'est important que les plus privilégiés montrent l'exemple en disant on a la chance d'être les plus privilégiés, nous, on fait un effet signal, on surcontribue par rapport aux autres. Et ce qui rend plus acceptable pour le reste des Français, les efforts qu'eux vont devoir faire aussi, quoi.
Ça changerait quoi, votre vie, si vous aviez cette taxe supplémentaire, 2% par tranche de 100 millions ? Qu'est-ce que ça changerait pour vous ?
Alors, la réponse courte, c'est ça changerait rien du tout. S'il y a vraiment quelque chose qu'on découvre quand on commence à avoir un patrimoine important, c'est que chaque million supplémentaire, il a de moins en moins de valeur. Puisque au début, quand vous avez peu d'argent, je dirais... Chaque millier d'euros a un impact très fort sur votre vie. Mais quand vous arrivez à des niveaux de patrimoine dont on parle pour la taxe Zuckmann, ça n'a zéro impact sur les gens, quoi. C'est un impact purement, on va dire, psychologique, mais il n'y a pas un impact matériel, quoi. C'est un très bon problème d'avoir à payer des impôts. Ça veut dire qu'on a les moyens de les payer et qu'on a beaucoup d'argent. Quand les gens se plaignent qu'ils payent des impôts, ils sont là, mais en fait, t'es un privilégié de pouvoir payer des impôts, quoi. Parce que les gens qui ne payent pas d'impôts, en général, c'est parce qu'ils sont dans des situations très difficiles, quoi. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un certain nombre d'équilibres qui fait qu'une majorité de Français considère que le système est juste.
Alors, taxe Zuckmann ou pas, en fait, le débat, il est plus large que ça. Pour vous, c'est la question de la contribution fiscale des plus fortunés.
Oui, c'est le fait que les plus fortunés, s'ils ont réussi ces succès, alors il y a du travail, du talent personnel, mais il y a aussi le fait d'avoir bénéficié de toutes les infrastructures de la collectivité. Hein, et ça, c'est très important. Il y a aujourd'hui un déséquilibre, notamment tout en haut de la pyramide en termes de patrimoine. Hein, c'est pour ça qu'on parle de tout ce débat, où en fait, on arrive à largement optimiser sa fiscalité avec tous les dispositifs existants. Qui fait qu'on arrive à des situations un peu absurdes où des gens avec plus de patrimoine vont payer moins d'impôts que des gens dans les tranches inférieures et qui crée ce sentiment d'injustice, voilà, qui est croissant et à un moment il faut l'écouter parce que si on fait semblant d'ignorer, ça va finir par péter, quoi. Et ça, je pense que c'est l'intérêt de personne, quoi. Et donc en parler, ça permet d'ouvrir le débat, ça permet de le rendre un peu moins tabou et un peu moins caricatural. Et j'espère que ça va faire bouger un peu les lignes dans les têtes des gens, quoi.
Dans le livre que vous avez publié il y a quelques années, vous qualifiez la France de paradis fiscal. En quoi la France est-elle un paradis fiscal ?
Moi, j'ai habité 10 ans en Californie, qui est quand même l'épicentre de l'entrepreneuriat mondial. C'est un endroit où on est extrêmement taxé, on est plus fiscalisé qu'en France. Donc le mythe de dire c'est à cause de la fiscalité en France que les gens n'entreprennent pas, ça ne marche pas.
De là à dire que la France est un paradis fiscal, ça doit en faire sursauter plus d'un quand même.
Bon, après, c'est une formule de style pour un peu se mettre en opposition à que la France serait un enfer fiscal. Eh ben non, c'est pas un enfer fiscal. Alors, il y a peut-être un juste milieu entre l'enfer et le paradis, je suis d'accord.
Parole d'ultra riche, un reportage de Cécile Bidot pour Interception. À la production, cette semaine, il y avait Xavier Yvon et Cécile Bidot. La réalisation est signée Lucie Lemarchand et Charles de Silia. Martine Messonnier est chargée de programme. Merci à Théo de Lobadère pour le mixage. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro au bout du monde et au coin de la rue.